Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai terminé le cours précédent en vous montrant quatre tessons portant des vers d'Homère, ce qui peut paraître d'autant plus étonnant que nous sommes dans un monastère où l'enseignement était censé, disons, se débarrasser des modèles classiques au profit de la littérature chrétienne, notamment de la Bible. Alors, une dernière pièce de la cellule B, puisque vous vous souvenez, nous sommes dans la cellule B, va confirmer la surprenante persistance de la littérature classique. Composée de 8 lignes, un petit peu plus de 8 lignes, l'ostracon 589 est écrit sur un ostracon de calcaire et l'éditeur, Evelyn White, proposait d'y voir un fragment d'homélie, point d'interrogation, comme vous le voyez à l'écran. Il ajoutait en note qu'eu égard aux répétitions des lignes 6 à 9, eh bien, il est possible que ce fragment ne soit rien de plus qu'un exercice d'école, quoique le texte puisse être encore homilétique. Fin de citation. Alors, homélie ou exercice d'école. Anastasia Maravella, en 2018, s'est intéressée à cette pièce et en restituant à la ligne 2 l'expression grammata eidos, sachant lire et écrire, eh bien, elle a relié cette expression aux lignes 6, où il est question de quelque chose qui donne à ceux qui ont appris, et 9, où il est toujours question, l'ostracone est malheureusement lacunaire, quelque chose qui donne à ceux qui comprennent. Et elle conclut que le sujet du texte est l'apprentissage, ou plus exactement l'apprentissage de l'écriture, la connaissance, la compréhension et les avantages ou récompenses qui en découlent. Fin de citation. Ce qui permettrait d'y voir un texte en rapport avec l'enseignement. Alors on peut aller plus loin. Comme je l'ai montré à mon séminaire de 2020, ici même, en proposant de lire l'ostracone de la façon suivante. Alors, vous voyez, une série de lignes que j'ai reconstituées ici, ce qui n'avait pas fait le précédent éditeur. Alors, comme on le voit, le texte s'adresse à des enfants. Hein, il est question de Tatekna, les enfants, la ligne 5. Et à la fin, on a un vocatif où un enfant est apostrophé, enfant. Et par ailleurs, vous le voyez aussi, le texte vante les lettres à la ligne 2, hein, celui qui sait lire et écrire, la connaissance et l'entendement, ici et là, connaissance et entendement qui apportent, et on a toute une série de verbes, paraskein, didossi, etc., procurer, donner, qui apportent quoi? Eh bien, la joie, karan, et le double de quelque chose qui malheureusement est en lacune, mais qui doit être évidemment positif. Alors là, la dernière ligne conclut sur la nécessité de suivre les conseils énoncé plus haut, enfant, suit ses conseils. Malgré ces lacunes, il n'y a pas de doute qu'on ait affaire à un texte s'adressant à des élèves. Alors, si on regarde le texte de plus près, on se rend compte que les conseils qui semblent chacun correspondre à une ligne se recoupent pour une part avec les sentences du poète comique Ménandre, hein, œuvre qui nous a suivis toute l'année dernière, tant elle était centrale dans l'éducation du grammatiste et du grammairien. Alors, à la ligne 2, il est question de au grammata eidos, donc celui qui sait lire et écrire, plus exactement que sachant lire et écrire, celui qui sait lire et écrire, qui doit être rapproché d'une sentence de Ménandre qui commence presque de la même façon, au grammata eidos, celui qui sait lire et écrire a aussi un esprit supérieur. Ce vers est d'ailleurs cité dans un autre ostracone du monastère d'Épiphane, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. À la ligne 6, eh bien, on a l'expression d'idossi tois matoussi, à ceux qui ont appris. Hein, là, je me suis trompé, c'est ici, à ceux qui ont appris. Eh bien, l'expression tois matoussi, combiné à grammata qu'on a vu juste avant, se retrouve dans une sentence de Ménandre que vous avez ici, hein, « Aucun bâton pour ceux qui ont appris à lire et à écrire ». Et qui est une sentence qui est attestée par d'autres témoins papyrologiques. Enfin, à la ligne 10, vous avez un vers qui peut se traduire, on n'a pas la fin, mais qui peut se traduire par « la parole » probablement, ou « la raison ». Est le remède pour une âme malade. Et cette restitution s'appuie sur une sentence de Ménandre, hein, la raison ou le discours, puisque vous savez qu'en grec, logos a ce double sens, est un remède pour une âme malade. En même temps, le dernier vers, Opais phylaxontas para ineseis, enfant suit ses conseils, fait penser au vers final de diverses versions de l'alphabeticum paraeneticum attribué au chrétien Grégoire de Naziance, texte d'ailleurs qui est un peu de même facture et de même esprit que notre ostracode, puisqu'il s'agit d'un recueil de conseils moraux. Donc vous voyez, référence peut-être à Grégoire de Naziance, tandis que l'expression phylaxontas paraineseis se retrouve dans une lettre de l'évêque d'Alexandrie, Athanase. Même si aucune sentence de Ménandre ne se laisse complètement identifier, à l'exception peut-être de celle du vers 10, nous avons avec cet ostracone un recueil de sentences sans contexte d'inspiration ménandréenne mêlées à des éléments chrétiens. Alors, pour couronner le tout, vous aurez constaté, ce que d'ailleurs personne n'avait vu, que chaque ligne commence par une lettre de l'alphabet. Notre texte se présente donc comme une série de vers, de trimètres iambiques, formant un acrostiche alphabétique, comme c'est si fréquemment le cas dans les recueils de sentences de Ménandre utilisées dans les écoles d'Égypte. Alors, le fait qu'on a affaire à un acrostiche alphabétique, forme privilégiée pour une meilleure mémorisation, je viens de le dire, par l'école, en même temps que par les chrétiens, hein, c'est le cas du texte de Grégoire de Naziance auquel je viens de faire allusion, le fait qu'on a affaire à des gnomai, à des sentences, qui est un genre dont le caractère édifiant le recommande comme propre à former des enfants, aussi bien sur le plan éthique, que les chrétiens vont retenir aussi dans leur pédagogie. Sentence qui plus est extraite de Ménandre ou inspirée par lui. Et enfin, des sentences qui tournent autour de l'apprentissage des lettres et de ses vertus. Eh bien, tout cela ne laisse guère de doute que cet ostracone a été écrit dans un contexte scolaire au sens le plus propre du terme, et que le texte a été compilé tout spécialement pour des jeunes. Anastasia Maravella émet l'hypothèse que notre ostracone serait de la même main que la liste des jours, hein, que nous avons étudiée précédemment, hein, le 618, ainsi qu'un fragment de texte chrétien, peut-être des hymnes, conservé par le numéro 608, trouvé dans la même cellule. Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse de la même écriture. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des différences. En revanche, nous avons, dans les trois cas, affaire à une écriture assez peu expérimentée. De plus, les numéros 589 et 608 ont un autre point en commun. Ils présentent ailleurs, sur leur surface, des griffonnages. Regardez ici le 589. Hein, on a quelque chose. Alors ça n'a pas l'air de faire sens, mais en fait, si, ce sont des lettres. On voit un kappa, un iota, alpha, qui sont en colonne. Tandis que la facette arrière présente des gribouillis. Sur la facette supérieure, par rapport au texte principal du 608, eh bien, qu'a-t-on ? Là encore, on a un griffonnage. Alors, ça n'a pas l'air de faire sens, mais en fait, si, on lit le début du nom propre Constanta, Constantinos. Et ce nom qui est juste ici commencé, mais avorté, eh bien, a été écrit dans sa totalité sur une autre face du même ostracode, ici en entier, hein, ce qui pourrait être le fait de quelqu'un qui apprend à écrire son nom en cursive. Et vous aurez remarqué que l'écriture est tout sauf très expérimentée. Quoi qu'il en soit, la révision du texte du 589 a permis de comprendre non seulement sa nature exacte, mais aussi sa fonction. Hein, il est le témoignage peut-être le plus indubitable qu'une activité pédagogique à l'attention de jeunes élèves a eu lieu dans la cellule B, activité qui utilisait des méthodes identiques à celles des écoles du monde, les écoles séculières. Alors, fort de ces résultats positifs, eh bien, il nous reste maintenant à passer, eh bien, dans l'autre cellule, la cellule A. Alors, la cellule A est constituée, comme vous le voyez sur ce plan, d'un vestibule aménagé sur l'entrée effondrée de la tombe, d'une tombe de la 11e dynastie. Qu'elle réutilise. Alors, la présence de bancs adossés contre les parois de ce vestibule, contre la paroi ouest et est du vestibule, montre que ce vestibule servait de salle de réunion, de séjour. C'est dans ce vestibule que fut retrouvée une natte de 177 cm sur 70, vous avez à l'écran, sur laquelle a été découvert un lot de, semble-t-il, 14 ostracas littéraires, lot qui a été scellé par l'effondrement du vestibule à un certain moment. On a donc affaire à ce que les archéologues appellent un contexte clos, autrement dit non perturbé par des manipulations ultérieures. On peut donc considérer qu'on a là un instantané de l'occupation de cette cellule et que les ostracas forment un ensemble homogène tel qu'il a été constitué par un de ses derniers occupants. On espère qu'il n'est pas mort dans l'effondrement du vestibule. Comme il se trouve que les ostracas sont écrits par la même personne, eh bien on pourrait même avoir le nom de leur auteur, pour autant que son écriture est identique, selon Crum, l'éditeur, à celle d'une lettre retrouvée dans la même cellule, nommément adressée à un certain Moïse. Alors, comme la lettre est adressée à Moïse, la lettre est écrite par Moïse. La lettre est écrite par Moïse. Ce qui voudrait dire qu'en fait, cette lettre n'a vraiment jamais été envoyée, qu'elle est restée sur les lieux mêmes de l'endroit où elle a été écrite, peut-être justement à la suite de l'effondrement du vestibule. Bref, nous sommes dans une situation très favorable. Nous avons un ensemble clos, et le scripteur qui est identifié. Or, que nous dit cet ensemble de textes ? Eh bien, la liste des 14 ostracas de l'anath a été établie par Scott Bucking à partir des informations données dans les deux volumes de publication. Vous l'avez à l'écran. En plus de ces 14 textes, une dizaine d'ostracas écrits par le même Moïse ont été retrouvés dans le reste de la cellule, hein, mais en dehors de la natte. Hein, je les ai mis ici. Vous hein, voyez, Job, Daniel, des hymnes, des tropères, donc des hymnes, etc. Alors, que dire de, cet ensemble ? Pour ce qui est de leur contenu, eh bien, ce sont des extraits de la Bible et surtout des textes liturgiques. En outre, du point de vue de la langue, du point de vue linguistique, eh bien, ils sont, vous voyez, en copte et en grec. Mais on notera certaines fautes en grec qui trahissent de la part de Moïse une bien plus grande familiarité avec le copte, voire une connaissance limitée du grec. Regardez cet exemple ici, c'est un texte grec, hein. Il a été édité par l'éditeur avec des caractères coptes, mais le texte est en grec. Et vous voyez que le nom très banal, Jean Ioannès, a été écrit avec une lettre copte, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Par ailleurs, vous voyez qu'ici, le mot grec prophétesse semble être précédé par « ou », qui est un article copte. Et enfin, vous remarquerez à la ligne 9, le mot « peristera », qui est écrit « peristera », avec une voyelle prothétique qui ne fait pas sens en grec. Alors, pourquoi Moïse, s'il maîtrise assez mal le grec, a-t-il écrit en grec ? Vous aurez remarqué que les extraits bibliques sont en copte, hein, ils sont ici, alors que les textes en grec sont tous des textes liturgiques, des hymnes, des tropères, etc., ou une grande doxologie. Alors, vous pourrez m'objecter que Daniel, qui est bien un texte biblique, est écrit en grec et non en copte. Mais justement, l'extrait qui a été copié se trouve être un cantique, celui des trois jeunes gens jetés dans la fournaise, là encore, on les retrouve, qui a peut-être connu un usage liturgique à cette époque, comme le pense l'éditeur Crum. Donc, vous voyez, texte biblique en copte, texte liturgique en grec. La répartition est trop belle pour ne pas avoir un sens. Eh bien, il se trouve qu'encore au début du 7e siècle, date probable de ces ostracas, et malgré la place de plus en plus exclusive du copte dans la vie de tous les jours, eh bien, le grec continuait à être de mise dans certaines parties de la liturgie, notamment dans les parties hymniques. Ce qui nécessitait évidemment de connaître un minimum de grec. Alors Winlock et Crum ont déduit tout cela que Moïse était un copiste travaillant pour le monastère et que la cellule B lui a servi d'atelier, vous voyez, Scribe's Workshop. Une lettre, par ailleurs, retrouvée dans le monastère, la lettre 386, dans laquelle Tatré Cataron demande à Moïse de lui écrire une partie de canon, nous dit le texte, pourrait confirmer explicitement que Moïse a servi de copiste, même s'il est difficile, je dois dire, de comprendre de quel canon il s'agit ici, puisque c'est un mot polymorphe qui pouvait, ou plutôt polysémique, qui pouvait s'appliquer à de nombreux types de textes, comme des règles, comme des recueils de prières, ou autres ensembles de textes organisés pour telle ou telle occasion. Scott Bucking, sans rejeter cette hypothèse, propose une autre interprétation consistant à voir dans les ostracas de Moïse le produit, je le cite, d'une étude privée ou d'une activité de dévotion, ce qui expliquerait la présence de plusieurs extraits de psaumes, texte que les moines méditaient constamment en les psalmodiant. Mais rien n'empêche aussi d'envisager, comme le fait d'ailleurs, je dois reconnaître Bucking, que ces ostracas, ou une partie d'entre eux, soient à replacer dans le cadre d'une activité d'enseignement. Après tout, même si Moïse a bien été copiste, il a pu dispenser des cours. Sa connaissance du grec, même si elle n'était que superficielle, et du copte, sa familiarité avec les textes, sa maîtrise de l'écriture en faisait une personne capable d'en former d'autres. Les ostracas retrouvés sur la natte ont d'ailleurs, a priori, plus de chances d'avoir été écrits à d'autres fins que de répondre à des commandes, eu égard à leurs matériaux plus adaptés à un enseignement qu'à figurer dans une bibliothèque ou être utilisés dans la liturgie. Des codex de papyrus ou de parchemin auraient été plus appropriés dans les deux cas. Alors pour examiner l'hypothèse d'un enseignement, eh bien, il nous faut élargir notre enquête aux autres textes religieux trouvés dans cette cellule A, qui ne contenait pas que des ostracas écrits par Moïse, mais aussi d'autres pièces écrites par d'autres personnes. Alors, j'en ai fait la liste ici, sur la partie droite de l'écran, en les classant par texte écrit en copte et par texte écrit en grec. Alors, ouais, vous voyez que là encore, hein, comme dans le cas de Moïse, on a des textes écrits dans les deux langues. Et comme vous le voyez aussi, ils sont tous placés sous le signe de la liturgie, pour autant que les psaumes pouvaient être aussi chantés pendant la liturgie. Mais l'intérêt de ces pièces, c'est qu'ils permettent aussi d'établir des liens entre Moïse et d'autres personnes qui ont vécu dans cette cellule A. Prenons par exemple le 580, hein, qui contient un psaume et puis un autre texte. Alors, je ne peux pas vous montrer la photo parce qu'il a été publié sans photo et l'ostracon, je crois, actuellement est au musée du Caire et il est inaccessible. Rien dans l'édition ne laisse deviner qu'il est écrit sur l'autre face d'un ostracon de la main de Moïse. Et ça, je dois dire que c'est assez symptomatique des philologues, de certains philologues qui s'intéressent plus au contenu du texte qu'aux gens qui les écrivent. Ah, il n'est pas indifférent de savoir que sur un même feuillet de papyrus ou sur un même tesson de poterie ou de calcaire, eh bien, deux textes ont pu être écrits par deux personnes différentes. Donc, vous voyez, le 580 est écrit sur le 400. Sur le 46. Alors, au dos de la prière en copte, écrite par Moïse, hein, de sa main assez exercée, eh bien une main bien moins exercée, comme vous le voyez, a écrit les versets 11 et 12 du psaume 45, suivi d'un texte chrétien indéterminé, commençant par une invocation à la Trinité, dans lequel l'éditeur voyait sans assurance une doxologie. Alors, je suis enclin de penser que le second texte, donc ça c'est les psaumes, et puis le texte qui a été rajouté, ce second texte serait d'une autre main qui n'est guère plus habile que la précédente. Alors, les écritures du verso, comme vous le voyez, sont des capitales sans ligature, mais en même temps sans aucune recherche calligraphique. La première partie du texte, la première main, mêle même lettres de type, de style différent. Par exemple, il suffit de comparer le mu de cette ligne, qui est ici, qui est un mu qui rappelle le mu de la majuscule biblique, que vous connaissez bien maintenant, avec les autres mu du texte, vous voyez qu'ils sont complètement différents. Et ça, c'est un mu qu'on retrouve dans un autre type d'écriture littéraire de l'époque qu'on appelle la majuscule alexandrine, qui, avec la majuscule biblique et l'ogivale penchée dont je vous ai parlé, constituent les trois grands types de styles d'écriture qui étaient utilisés pour les manuscrits à cette époque. Alors, mon sentiment est qu'on a affaire à quelqu'un qui a appris à écrire à partir de modèles rédigés dans des textes en capital, qui étaient plus aisés à lire que les textes en cursive, textes en capital de styles différents, mais que cette personne ne sait pas encore faire la différence entre ces derniers. Hein. Pour vous donner un exemple, pour actualiser l'exemple, disons, de façon moderne, eh bien, c'est comme si un typographe ne savait pas où mélanger des lettres en italique, en romain et en gothique. En tout cas, il n'est certainement pas du niveau de Moïse. Et donc, il pourrait s'agir de quelqu'un apprenant à écrire sous sa direction et qui aurait utilisé un ostracode de sa main pour écrire un autre texte sur l'autre face. Alors, n'est-ce pas la même situation que nous devinons avec le numéro 48, une troisième copie d'une prière recopié deux fois par Moïse. Alors, nous n'avons pas, malheureusement, de photos du numéro 48 qui nous permettrait d'en caractériser l'écriture. Crum indique clairement dans son édition qu'il est d'une autre main que celle de Moïse. L'éditeur suggère prudemment qu'il s'agit d'une prière de Chénouté, le célèbre abbé du monastère blanc, ayant vécu à cheval entre le 4e et le 5e siècle, et par ailleurs un auteur prolifique de langue copte. Alors, l'examen de l'ostracone permet de confirmer que ce texte était bel et bien considéré par celui qui l'a copié comme étant de Chénouté. Hein, à la première ligne, vous voyez, l'éditeur a édité Énouté, et ensuite un nu et un point, en fait. Il n'y a pas de nu et de point, vous avez tout simplement ici ces deux petits signes qui sont des décorations typiques qui entouraient les titres d'ouvrage. La question qui se pose à nous est de savoir pourquoi ce texte a été écrit en trois versions. Nous n'aurions eu que les deux versions de la main de Moïse, nous aurions pu conclure, comme le font les auteurs de la publication des fouilles d'Appa Epiphane, que nous avons là le témoignage d'une activité de copiste de Moïse. Encore serait-il étonnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle se fasse sur Ostraca. Mais une copie supplémentaire d'une autre main pourrait nous orienter vers une autre solution. Moïse a pu faire recopier ce texte par un élève apprenant à écrire ou se formant à la littérature copte, dont Chénouté est une figure illustre. Alors, malheureusement, l'absence de photos ne permet pas de départager ces deux possibilités. Alors, malgré tout, l'hypothèse, disons, d'un apprenti ou d'un enseignant, d'un élève, pourrait être confirmée par un autre texte, le 609, que l'éditeur interprète comme un fragment de tropère, d'hymne en grec. Alors, la première ligne, la dernière ligne plutôt, est la seule qui soit complète. Hein, c'est celle-là, la dernière ligne que vous avez ici. C'est la seule qui soit complète. Et on lit « Bacillus doxacé » que l'éditeur comprend comme « Bacillus doxas » et il y voit un fragment du psaume 23, que j'ai cité ici. Et donc, il pense que le epsilon qui se trouve après doxas serait le début du verbe qui se trouve ici. Mais je crois que cette... Alors, Bacillus tes doxes, le roi de gloire. Mais je pense que cette hypothèse est à rejeter. On a doxas et non doxes. En grec, le génitif, c'est doxes. Et par ailleurs, eiselosetai est ici avant et non après dans le texte. En revanche, la séquence de l'ostracone, Bacillus doxacé, pourrait par exemple correspondre à un fragment d'Esther où vous avez exactement la même chose. Alors, vous allez me dire, on a « sai » ici et non pas « se », mais on a une époque où « ai » se prononce exactement comme « e » et souvent, on remplace « ai » par « e ». Et par ailleurs, vous avez aussi ici une expression « nkura » dans le pays qui se trouve à de nombreuses reprises dans la Septante. Donc, on pourrait avoir un pot pourri de citations bibliques ou un texte, par exemple, liturgique, se présentant comme une rhapsodie d'extraits bibliques. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse avec ce texte, c'est qu'on observe à la dernière ligne un phénomène intéressant. L'éditeur a lu Basileia. Vous voyez ici, c'est pas facilement lisible. Là, j'ai fait un zoom sur cette partie. Il lit Basileia, qui veut dire règne. Alors, il dit que le mot est grossièrement tracé par une seconde main. Mais en regardant de plus près, je pense que le mot a été ajouté, que le mot ajouté par cette seconde main n'est pas Basileia, mais Basileus, qui se trouve être justement le mot écrit juste au-dessus. Et donc, on aurait un débutant qui s'est servi d'un texte écrit par Moïse pour s'exercer à écrire. Et il a recopié dans l'espace blanc le mot qui était juste avant. Alors, vous voyez que l'exercice a été de courte durée, hein, il s'est arrêté très vite. Mais on a un autre exercice un peu du même esprit dans la même cellule 1, mais qui ne se limite pas à un mot, qui a été, qui se trouve être un texte documentaire, cette fois-ci, en copte. Alors, le protagoniste est toujours Moïse, il s'agit d'une lettre qu'il a reçue. A donné à mon frère Moïse de la part de Jean, comme je suis venu hier pour te rencontrer alors que tu étais malade, puisse ta fraternité trouver un arrangement pacifique pour ce pauvre homme, comme tu le vois, je l'ai envoyé à toi avec un oipé. Oipé, c'est une mesure, une quantité de blé. Il m'a dit en effet que Ménas l'avait insulté ou violenté, et vous avez dans le texte un mot grec qui est utilisé, qui est hubritzein, qui peut vouloir dire aussi bien insulté que violenté. Alors, au verso de ce texte, eh bien, une autre main a recopié les sept premières lignes du recto. Alors, Crum est plus dubitatif sur le fait que le texte du verso soit d'une autre main et sur la finalité de cette copie. Il dit, bien que son écriture soit privée de ligature, il n'est pas improbable qu'il soit de la même main que celle du recto. La raison de la répétition n'est pas évidente. Bon, ça c'est son avis. En comparant de près les écritures du recto et du verso, ben je crois qu'on ne peut pas douter du fait qu'on a affaire à deux mains différentes et de niveaux, je dois dire, très dissemblables. Autant l'écriture du recto est une écriture aisée, autant celle du verso est une capitale plutôt hésitante. Il n'y a guère de doute non plus que nous ayons affaire à un exercice d'écriture fait à partir d'une lettre probablement réelle, reçue par Moïse. Mais là encore, la question est de savoir à quel type d'exercice d'écriture on a affaire. On pourrait s'appuyer sur le fait que la main du verso est une capitale plus ou moins du type de celle des manuscrits littéraires pour conclure que l'auteur du verso est un apprenti copiste. On notera cependant que, comme pour des ostracas que nous avons vus précédemment et celui qu'on a vu tout à l'heure, le 580, eh bien, il mêle divers types de styles d'écriture. On retrouve là encore le mu typique de la majuscule biblique à côté d'autres mu, notamment celui-ci, qui est lui typique de la majuscule alexandrine. On a une fois de plus, affaire à quelqu'un qui a appris à lire et à écrire à partir de modèles écrits en majuscules, en capital, mais qui ne sait pas distinguer les différents styles d'écriture. Il en est encore à maîtriser les lettres dans leur forme non cursive. Alors que Moïse ait proposé à son élève une des lettres qu'il avait reçues plutôt qu'un texte littéraire, un texte biblique par exemple, ou un texte liturgique, peut donner à penser que le but de l'exercice était de s'exercer à écrire indépendamment du type de texte. Mais il n'est pas illégitime de se demander si le recours à une lettre n'avait pas secondairement pour but d'initier l'élève au formulaire épistolaire que tout adulte alphabétisé se devait de maîtriser un tant soit peu eu égard à l'importance de la communication épistolaire dans la société d'alors et particulièrement dans les réseaux monastiques. Ce n'est pas le premier exemple d'écriture épistolaire que nous rencontrons et nous avons un autre exemple dans la cellule A avec cet ostracone, le 128, ou plus exactement le 228. Il n'est pas édité dans le volume, mais seulement traduit. Mais je vous en donne quand même le texte et la traduction. « Ayez la bonté, mon père, de venir, car le besoin s'en est grandement fait sentir. Salut dans le Seigneur Jésus, en vérité, par bonté, amen. Ayez la bonté de vous souvenir de nous dans vos saintes prières. » L'éditeur a vu, a compris que les expressions ne faisaient pas tellement de suite. Et par ailleurs, le fait qu'on ait une écriture très, très calligraphique, lui a suggéré qu'il pouvait s'agir d'un simple exercice. Alors, pour revenir juste à la lettre adressée à Moïse, on notera au passage qu'elle relève d'un type de lettre particulier qui apporte quelques lumières sur la personnalité de son destinataire. Si vous souvenez de la traduction, son correspondant lui envoie une personne en proie à un différent, avec un certain menace qu'il a insulté ou qu'il a agressé, pour que Moïse règle le litige. Autrement dit, on demande à Moïse de jouer le rôle d'arbitre. Eh bien, c'est une situation qui est fréquente dans l'Antiquité tardive où les litiges se règlent de plus en plus par des arbitrages privés sollicités par lettre plutôt que par des procédures judiciaires entamées par la présentation d'une pétition et qui nécessitent des démarches devant un tribunal, etc., et tout ça se faisant en grec. Alors, que l'on s'adresse à Moïse pour arbitrer un conflit prouve qu'il passait dans la petite communauté thébaine, pour une personne de discernement à qui on faisait confiance. Et son niveau lettré, tel qu'il est attesté par son dossier d'ostracas, se double donc d'une certaine réputation sociale. Faut-il s'en étonner ? Faut-il s'étonner que maîtrise de l'écrit et prestige social aillent ensemble ? Comme le dit une des sentences de Ménandre que nous avons rencontrées il y a peu, celui qui sait lire et écrire a aussi un esprit supérieur, et une autre sentence rajoute, c'est à lui que l'on demande conseil. Donc vous voyez, la littérature scolaire vante aussi les mérites des lettres et leur implication humaine et sociale. Je referme cette parenthèse. Alors, nous n'avons pas complètement fini avec les textes potentiellement scolaires de la cellule A. Trois textes encore méritent notre attention. Alors, nous avons vu avec le monastère du Petit Foibamon, le rôle qu'ont pu jouer les glossaires gréco-coptes dans la formation d'élèves coptophones apprenant le grec. Eh bien, il se trouve que un fragment de papyrus de la cellule A relève de cette catégorie, vous l'avez à l'écran. Alors, il se présente comme une liste de noms d'oiseaux dont seules les entrées en grec dont seules les entrées en grec sont conservées, tandis que les gloses en copte étaient dans la partie droite aujourd'hui perdue. Alors, je n'insisterai pas sur le contenu de ce papyrus, d'abord parce qu'il soulève de très gros problèmes philologiques qui rendent difficile la lecture et surtout l'identification des oiseaux dont il est question, et aussi parce que ce papyrus a fait l'objet d'une séance de mon séminaire du 7 mars, animée par Nathan Carlig et Antonio Ricciardetto. Alors, ce qui nous importe, c'est qu'il puisse être une tesselle supplémentaire de la mosaïque scolaire que nous essayons de reconstituer. Raffaella Cribiore l'a inclus dans son corpus des papyrus scolaires. Elle le classe dans la catégorie des écritures alphabétiques, c'est-à-dire des écritures qui caractérisent la main, je vous ai mis le texte en anglais, la main d'un apprenant, learner, d'une personne dont on peut attendre qu'il écrive l'alphabet avec précision, sans hésitation, mais qui n'a pas encore développé la coordination main-œil, et à qui il arrive encore d'écrire des lettres en plusieurs traits, et dont l'effet global obtenu est médiocre. Alors, je veux dire, je serais peut-être moins critique que Raphaël Acribiore, et je classerais l'écriture de notre papyrus plutôt dans sa catégorie supérieure, c'est-à-dire dans les evolving hands, dans les mains en évolution. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que nous n'avons pas affaire à la main d'un professionnel ou de quelqu'un qui a acquis une vraie maîtrise de l'écrit, qui est encore en situation, pour utiliser un langage pédagogique, d'apprenant. Voilà. Le fait qu'il ajoute d'ailleurs sur les upsilon à l'intérieur des mots un tréma, alors que normalement le tréma est réservé uniquement sur les upsilon ou les iota au début, au tout début d'un mot, hein, pour éviter une mécoupure avec le mot précédent. Donc le fait qu'il met des trémas sur des upsilon à l'intérieur de mots est le signe d'un manque de maîtrise des conventions graphiques. Et par ailleurs, vous avez peut-être remarqué ici un signe qui est en fait un esprit rude sur l'article « et ». Eh bien, la présence de cet esprit peut aussi constituer un autre indice du contexte scolaire. Nous avons vu déjà précédemment qu'on aimait bien, pour rendre les textes plus lisibles, rajouter les esprits et les accents dans les textes pour faciliter le travail des enfants. Alors, quittons le monde des glossaires pour celui de la littérature. Nous avons eu l'occasion de voir la place importante des sentences de Ménand dans l'école antique. Recueil de pensées édifiantes, en un vers, en monostique, comme on dit, dont la constitution, à partir d'un noyau de vers de l'auteur comique, de Ménandre, et dont la transmission doivent beaucoup à l'école, qui y trouvait un matériau pédagogique riche et multifonctionnel, propre à servir à la fois à des cours de littérature, à des cours de métrique, puisqu'ils sont en vers, mais aussi à des cours de morale. Bon. La cellule B a livré un témoignage de ses recueils de sentences, vous vous en souvenez, hein, donc, qui nous a permis de voir que ça circulait aussi dans les monastères. Mais les vers de Ménandre étaient combinés à un matériau plutôt chrétien. Eh bien, la cellule A livré un grand ostracon de calcaire qui, cette fois-ci, est uniquement constitué de sentences de Ménandre. Il s'agit du 615 de la publication. Vous voyez que ces sentences sont écrites d'une main. Alors, vous voyez, quand je dis vous voyez, la photo n'est pas très bonne et malheureusement l'ostracon est assez effacé. Mais c'est une main qui est assez proche de celle de Moïse, mais pas identique, et peut-être plus maladroite. Les sentences sont tracées en continu, donc il n'y a pas de coïncidence vers-ligne, et elles sont soumises, comme d'habitude, au principe de l'acrostiche alphabétique. Donc on commence par des alpha, des sentences commençant par alpha, ensuite bêta, gamma, delta, etc. Et vous avez toujours plusieurs sentences pour une lettre. Alors, le début de ce texte que je vous ai mis dans sa dernière édition, celle du Corpus dei Papiri Philosophici, le début doit nous retenir. Alors, il est lacunaire, comme vous le voyez. On n'a pas le début, mais on a proposé de le restituer ainsi. Arche Sophias Phobosteou, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Alors, vous aurez remarqué que cette séquence est amétrique, et qu'avec ses 9 pieds, ben, il est impossible d'en faire un trimètre iambique. C'est qu'en fait, on a là une citation littérale d'un livre de la Bible, le Proverbe 1, 7. Alors, il n'est pas indifférent, dans la perspective du sujet que je traite cette année, que ce recueil de sentences d'un auteur classique, Ménandre, commence par une citation biblique. Citation doublement bienvenue, elle commence par un alpha, ça tombe bien. Et surtout, elle, d'une certaine façon, elle relativise le savoir littéraire que véhiculent à leur façon ces sentences, en montrant que la sagesse doit prendre sa source dans la crainte de Dieu, donc relativisation de ce savoir, et en même temps, façon d'annexer cette littérature à un plus large dessein éducatif d'essence chrétienne. Alors, on ne s'étonnera donc pas que les deux autres attestations de cette sentence, parce que nous en avons deux autres, trouvées là aussi en Égypte, se retrouvent dans des exemplaires d'époque tardive et dans des contextes assurément chrétiens. Alors, je voudrais vous en montrer un. Il s'agit d'un papyrus de la Bibliothèque nationale de France, mais qui a une particularité, il est écrit en lettres arméniennes. Mais le texte est grec. C'est-à-dire que ce sont du grec translittéré en arménien. Et qui présente tout un matériau pédagogique, des phrases de conversation, des conjugaisons de verbes, des listes de mots classées par type, des cris, des sentences, etc. Il s'agit donc d'un livre servant à apprendre le grec à un arménien venu en Égypte. Eh bien, on remarque que, au milieu d'autres sentences de Ménandre, arché tou biou tophronein ta grammata, apprendre à lire et à écrire est le commencement de la vie. Une autre sentence, malheureusement, partiellement en lacune. Et ensuite, vous avez notre arché sophias. Phobos Théou, que l'on retrouve. L'autre texte que je voudrais vous montrer comme parallèle, c'est un ostracone qui a été retrouvé aussi sur la rive ouest de Thèbes. C'est un ostracone des archives de Franguet, un moine, de la première moitié du 8e siècle. Et ce texte est écrit dans une écriture extrêmement malhabile de débutant. Et on a peut-être là affaire à un élève de Franguet qui lui était, j'aurai l'occasion d'y revenir l'an prochain, qui était un maître d'écriture. Et comme vous le voyez, ce texte, là aussi, présente sous la forme d'un acrostiche alphabétique, alpha, bêta, gamma, delta, etc., toute une série de sentences. Alors, on n'a que la partie allant de alpha jusqu'à zeta. Elles sont introduite, vous le voyez, par la crainte de Dieu et le début de la sagesse, donc Proverbe 1:7. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul indice de christianisation que recèle ce choix de sentence. Pour la lettre gamma, eh bien, qu'a-t-on ? On a choisi un passage de Matthieu 25:13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et pour la lettre epsilon, eh bien, on a choisi l'invocation de la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui dérive de Matthieu 28:19 et qui est par ailleurs très largement utilisé à cette époque pour introduire les documents juridiques. Donc vous voyez, mélange a priori curieux, mais qui montre en action le phénomène de christianisation des recueils de sentences ou maximes qui, comme nous l'avons vu dans un cours d'une année précédente, se prêtait déjà à une récupération par les chrétiens par le simple fait qu'ils véhiculaient une éthique qui était acceptable par ces derniers. Ce que montre admirablement l'ostracone d'Épiphane et ses parallèles, c'est la façon dont les sentences de Ménandre, d'un côté, et les proverbes, ou d'autres extraits bibliques de nature sapientiale, de l'autre, confluent dans une même veine gnomologique pour nourrir et façonner des recueils au périmètre fluctuant, mais jouant un rôle de plus en plus central dans la culture, la gnomée Hein, la sentence, la maxime, la gnomée revêt une importance sans cesse plus grande, non seulement dans la formation éthique des individus, mais aussi dans la mise en forme de la pensée. Son contenu moralisant, sa forme facilement mémorisable, en faisait un instrument pédagogique, mais en faisait aussi un outil argumentatif et discursif pour les rhéteurs et pour les philosophes, par exemple. Et en faisait aussi un capital de dogmata, d'opinion, de citation, qui était immédiatement exploitable dans n'importe quelle situation. On peut aller jusqu'à parler d'une gnomologisation de la culture qui ne cesse de s'affirmer à partir de l'Antiquité tardive. Aussi, le recueil de sentences de Ménande que transmet donc le papyrus, enfin l'Ostracon 615, a-t-il quelque chose de paradigmatique qui en dit long sur la persistance de certains modèles classiques, non seulement à l'époque chrétienne, mais aussi dans les milieux monastiques dont on pourrait penser qu'ils étaient plus réfractaires à cette forme de littérature. La place des sentences dans l'enseignement séculier explique évidemment qu'on ait continué à les utiliser aussi dans la formation que les monastères étaient amenés à dispenser. Alors, on pourrait minimiser l'importance de l'Ostracon 615 et voir un cas isolé. Mais il n'en est rien, comme va vous en convaincre le dernier texte dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Il s'agit du numéro 590 des Ostraca d'Épiphane. Il n'a pas été correctement identifié par l'éditeur qui voyait peut-être un texte de nature homilétique. Je veux dire, c'est assez symptomatique de l'attitude des savants travaillant sur des écrits trouvés dans des monastères. Quand ils sont trop fragmentaires, quand ils n'arrivent pas à les comprendre, eh bien, ils proposent d'y voir des restes d'homélie, de prières, de textes chrétiens, tant ils sont à des années-lumière de l'hypothèse qu'on puisse aussi avoir affaire à de la littérature classique. Alors, en regardant ce tesson d'un autre œil, je me suis rendu compte qu'il s'agissait tout simplement d'un recueil de sentences de Ménandre. Et vous voyez, là encore, les sentences sont classées par ordre alphabétique, acrostiche alphabétique. On commence, là encore, la crainte de Dieu est le début de la sagesse, le plus grand principe de la sagesse ou de l'intelligence, ce sont les lettres. Parole ou raison est le guide de tout commandement. D'un homme juste, le fruit ne meurt pas. Dis et apprends avec ardeur ce qui est bon. Une vie sans moyen de vivre n'est pas une vie. Beau est le terme d'une vie juste. Donc là, nous avons un recueil qui couvre les lettres allant de alpha à bêta. Ce qui est plus troublant, c'est que notre texte suit exactement celui du grand Ostracon que je vous ai montré tout à l'heure, le 615. Enfin, la comparaison des écritures des Ostraca m'amène à y voir la même main. Nous avons donc deux copies d'un recueil de sentences de Ménandre, et si elles sont bien dues au même scripteur, eh bien, il pourrait s'agir d'un exercice d'écriture, un devoir que le maître lui a fait répéter plusieurs fois. Voilà, nous arrivons au terme de notre enquête sur la cellule A et B, sur les cellules A et B du monastère d'Épiphane. Alors l'examen des textes qu'on y a découverts me semble aboutir à la conclusion indubitable que ces ermitages ont bien abrité une activité d'enseignement. Et le fait que cette activité d'enseignement se localise plutôt dans ces ermitages plutôt que dans le monastère lui-même pourrait tenir au fait que l'enseignement, ça fait du bruit. Vous vous souvenez de ces textes où les moines refusaient qu'il y ait un enseignement dans leur monastère, et du coup, on a peut-être localisé cet enseignement un petit peu à l'écart, à quelques dizaines de mètres du monastère. Alors, de quelle nature et à l'attention de qui cet enseignement ? La réponse à la seconde question n'est pas facile, mais nous avons vu avec l'Ostracon 589 qu'il y a eu un enseignement dispensé à des enfants apprenant à lire et à écrire. Cela n'empêche pas que des adultes aient pu aussi bénéficier de cet enseignement. Quant à la nature de cet enseignement, la documentation a chaque fois renvoyé des signaux assez divers. Raison d'ailleurs pour laquelle Anastasia Maravella préfère parler plus vaguement au sujet de cette documentation d'educational text, texte éducatif, plutôt que schools text, c'est-à-dire texte scolaire. Alors commençons par dire qu'on y a retrouvé une partie des traits de l'enseignement traditionnel du grammatiste et du grammairien. D'un point de vue formel, on a recours à des listes de mots, à des textes suivis, arrangés selon le principe de l'acrostiche alphabétique, permettant une meilleure mémorisation. Ça, ce sont des choses qu'on retrouve aussi dans les écoles séculières. Du point de vue du contenu, on a recours, à côté de textes purement chrétiens, de textes bibliques, aux mêmes auteurs classiques que ceux qui sont au programme dans les écoles séculières, c'est-à-dire les épopées d'Homère et les sentences de Ménandre. Ces dernières, les sentences, montrent cependant quelques signes de christianisation. Cela était inévitable, puisqu'elle véhiculait une morale qui, par son côté incolore, sagesse des nations, dirais-je, pouvait s'accorder avec celle promue par le christianisme. Par ailleurs, leur caractère malléable, polymorphe, fait qu'on pouvait y ajouter toujours des éléments, permettait l'adjonction de matériaux exogènes sans que cela les dénature et nuise à leur fonction éducative. C'est ainsi que s'y glissèrent des maximes d'origine biblique qui se devinent moins par leur contenu que par leur forme, puisque certaines de ces maximes contreviennent aux règles de la métrique grecque. Le numéro 589, ou l'Ostracon de Frangé aussi, est un bel exemple de ces recueils mixtes qui ont commencé à se constituer, à se répandre, notamment dans le monastère, comme nous avions eu l'occasion de le voir avec un codex beaucoup plus complexe, le codex composite du monastère blanc, le CLM 6378, datable du 10e, 11e siècle, mais remontant à un original plus ancien, manuscrit qui, au milieu de textes d'auteurs chrétiens, Basile de Césarée, Sévère d'Antioche, Orsiès, Isaïe de Cété, Rufus de Chotep, Constantin de Siout, Athanase, encore lui, contenait des œuvres qui sont dites des œuvres de philosophes, comportant une série de sentences, de cris, de paraboles attribuées à des sages ou des philosophes de l'Antiquité païenne, comme Anacharsis ou Diogène, tandis qu'une partie d'entre elles, anonyme, avait été extraite d'une homélie attribuée à Évode de Rome ou d'Antioche, homélie intitulée « Des passionnés sur la passion ». Ce mélange n'a rien d'étonnant et se retrouve dans d'autres ensembles papyrologiques dont j'ai eu l'occasion de vous parler encore l'an dernier, comme cet ensemble d'Ostraca datable de la fin du 5e siècle et provenant peut-être de Haute-Égypte, maintenant au Petri Museum, où se côtoient d'un côté le chant 1 de l'Iliade et les sentences de Ménandre, et puis de l'autre des psaumes, des actes des apôtres, épîtres aux Romains, épîtres aux Galates, épîtres à Jacques, épîtres à Jean, épîtres à Jude, sans compter un texte de nature liturgique. Il n'est d'ailleurs pas indifférent pour mon propos que on ait proposé comme provenance pour cet ensemble justement un monastère, même si en fait ce mélange est caractéristique avant tout des options culturelles de l'ensemble de la société de l'époque. Mais j'ai parlé de signaux divers, ou assez divers. En effet, si nous avons retrouvé dans la documentation papyrologique d'Épiphane des traits auxquels nous avaient habitués les écoles séculières que nous avons étudiées l'an passé, nous n'en avons pas moins été sensibles à quelques différences. Alors la première est d'ordre linguistique. Le matériel que nous avons passé en revue résulte d'un enseignement copte ou gréco-copte visant à parfaire la maîtrise du copte par des exercices épistolaires ou enseigner le grec comme L2, comme deuxième langue vivante, à des coptophones, comme les glossaires ou les listes de jours. Les monastères thébains sont des lieux où les moines sont essentiellement coptophones, mais où la connaissance du grec continue à être considérée comme une nécessité. Alors, deux raisons à cela, j'ai fait allusion tout à l'heure, la liturgie persiste à intégrer des parties en grec, et par ailleurs, la vie économique à laquelle participent activement les monastères et qui les oblige à échanger avec le monde extérieur, implique la connaissance du grec. Et par ailleurs, dans le matériel que nous avons passé en revue, nous retrouvons pas certains exercices auxquels les écoles séculières grecques nous avaient familiarisés, mais nous en trouvons d'autres, notamment les exercices épistolaires, qui semblent donner à cet enseignement une dimension la plus pratique possible. Autre différence, peut-être la plus frappante. En examinant de près certaines pièces, eh bien, nous avons souvent hésité entre deux interprétations, à savoir un enseignement des lettres ou un enseignement ou des exercices de calligraphie. Autrement dit, la dimension graphique ou calligraphique nous a semblé parfois prendre le dessus sur le contenu même du texte, si bien que l'on pouvait se demander légitimement si on avait affaire à un élève apprenant les rudiments ou bien à un scripteur ayant déjà acquis ces rudiments, mais s'entraînant à maîtriser les styles d'écriture, notamment ceux en usage pour la copie des manuscrits, notamment des écritures dont je vous ai souvent parlé, de la majuscule biblique, l'ogivale penchée, et éventuellement aussi la majuscule alexandrine. Alors, faut-il conclure, comme l'ont fait certains, que nous avons affaire à un enseignement de type professionnel, en l'occurrence celui de copiste, d'autant que les monastères étaient justement spécialisés dans la copie des manuscrits. J'ai essayé de vous montrer avec l'exemple du texte de Columbia, qui donne une paraphrase d'un hémistiche d'Homère et le texte exact d'un autre hémistiche d'Homère dans des styles d'écriture opposés, j'avais essayé de vous montrer que les choses n'étaient pas si simples et qu'il fallait peut-être envisager un enseignement combinant la formation de type secondaire à une formation professionnalisante. La diversité des interprétations qu'ont donné les chercheurs de nos ostracas, en fait, révèle notre méconnaissance de l'enseignement professionnel et de ses spécificités dans l'Antiquité, et dans l'Antiquité tardive notamment. Alors, en écoutant les conclusions auxquelles j'aboutis aujourd'hui, vous ne serez pas étonnés si je vous annonce que le cycle sur les écoles que j'ai commencé l'an dernier s'achèvera l'an prochain par une étude de l'enseignement copte et de l'enseignement professionnel. Ce sont là deux sujets sur lesquels presque tout reste à faire. Deux chapitres ignorés du grand livre de la culture de l'Antiquité tardive que j'essaierai de dérouler pour vous et qui ne manqueront pas de faire écho à certaines préoccupations actuelles dans nos sociétés de plus en plus confrontées au multilinguisme et qui réinterrogent aussi la façon, de façon sans cesse plus lancinante, l'utilité de l'enseignement classique face à l'enseignement professionnel, en préconisant notamment l'adaptation de plus en plus précoce du premier au second. Et nous verrons les réponses que les anciens ont données à ces deux situations, réponses qui ne sont d'ailleurs pas toujours celles auxquelles nous nous serions attendus. Mais je ne veux pas déflorer certaines de ces surprises et vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.